France Culture. (12h-13h30) Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle a été la première femme à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation. Depuis ses débuts, elle sonde la violence fondatrice des États-Unis. Dans son dernier film House of Dynamite, la violence est sans visage. Catherine Bigelow sera l'invitée des midis à partir de 13h. Mais tout de suite, c'est la critique. Aujourd'hui, on parle de l'actualité de la bande dessinée avec les albums de Routard des planches, Lessivé d'Alison Bechdel et Monsieur Chouette de David B. Et puis une nouvelle arrivée, Bénédicte Muller, qui signe La tête sur mes épaules. Vous écoutez les midis de culture, mais ça reste entre nous. Et nous, ça inclut bien sûr les critiques du jour. Lucie Servin, journaliste spécialiste de littérature et de bande dessinée. Bonjour.
Bonjour Marie.
Antoine Guillot, critique de cinéma et de bande dessinée, producteur de l'émission Plan Large sur France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Lessivé et E, c'est le titre du quatrième roman graphique de l'américaine Alison Bechdel. Lessivé, avec le sigle dollar en guise de S, car de l'argent, elle en a, cette héroïne qui s'appelle, comme l'autrice, Alison Bechdel. Elle tire sa richesse de l'adaptation en série de télé de son premier ouvrage, Mort et taxidermie. Si vous connaissez l'univers de Bechdel, vous saisissez l'ironie. Pour les autres, je vous explique un peu, Alison Bechdel, la vraie, a connu un immense succès avec Fun Home, sa première bande dessinée. Bref, Alison Bechdel s'amuse et joue de la mise en abîme permanente pour raconter sa vie et les contradictions d'une lesbienne de gauche végétarienne en quête d'éthique et d'équité. Antoine Guillot.
Oui, alors c'est évidemment une star, Alison Bechdel, donc elle est toujours très attendue au tournant. Moi, je vous avoue que j'ai un problème avec ce livre, avec ce que fait Alison Bechdel en général, c'est que je pense qu'elle est meilleure écrivaine que bédéaste. Graphiquement, c'est toujours un peu laborieux, sa façon de dessiner, toujours assez rigide. Alors peut-être parce que, en tout cas, c'était beaucoup le cas dans Fun Home, où elle dessinait à partir de photographies, plus qu'à partir de la vie. Et je trouve ses personnages toujours très figée. Les couleurs aussi sont assez désastreuses. C'est mis en couleur par sa compagne,
ouais,
qui est mise en scène dans le livre, et ça ressemble plus à du coloriage qu'à une vraie pensée de la couleur. Donc il faut quand même déjà pouvoir rentrer dans cet univers assez fixe, qui fonctionne beaucoup sur des cartons récitatifs qui exposent une situation qui va être plus ou moins illustrée avec plus ou moins de décalage et souvent pas beaucoup dans le dessin. Ceci dit, c'est quand même assez rigolo, assez fin dans l'écriture, même si, encore une fois, au début, on peut être agacé par cette mise en scène de soi en autofiction, un peu décalée, puisque, effectivement, son Fun Home, qui vraiment l'a fait connaître dans le monde entier, est vraiment l'objet d'un culte général, n'a pas été adapté en série télé, mais en musical à Broadway. Alors, c'est en cours d'adaptation, apparemment, au cinéma, on attend de voir ça un jour, mais bon, ces décalages mis à part et ce côté un peu autocomplaisant dans je me montre dans mes travers, mais quand même pas trop, on est très loin d'Aline Kaminsky-Crumb, qui elle y allait très très fort, on en avait parlé ici dans la dépréciation de soi et dans tout ce que ça montre. Ce qui est assez intéressant et presque exotique, c'est ce que ça montre d'une espèce de vie utopique qui se confronte au réel très violent des États-Unis d'aujourd'hui. Ça se passe entre 2022 et 2024, si j'ai bien compris, donc c'est vraiment la deuxième moitié du mandat de Biden, entre deux Trump, et on sent effectivement venir tout ce qui est aujourd'hui le quotidien de l'Amérique, vu de cette petite communauté. Alors dans les années 70, ça aurait été des hippies, maintenant ce sont les... alors si on est de l'autre côté, on dit c'est vraiment les horribles woke, tout ça, mais c'est vrai qu'ils ont tous les... ils concentrent tous les travers que eux-mêmes peuvent se reprocher, c'est-à-dire tout doit être inclusif, respectueux, progressiste, avec une novlangue qui est parfois complètement incompréhensible. On mange des choses extrêmement bizarres. Je n'arrive toujours pas à comprendre parfois ce qu'ils mangent. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça travaille les contradictions même de ce milieu, et surtout vu d'une activiste qui maintenant a plus de 60 ans et qui voit des jeunes encore qui vont encore plus loin et qu'elle-même ne comprend pas. Moi, j'adore l'idée du polycule asexuel, c'est-à-dire qu'en gros, c'est les polyamours, mais surtout pas de sexe dedans, et ça se rompt dès qu'on se rend compte qu'il y en a qui font du sexe. Ça a l'air très étrange vu comme ça, mais la manière dont elle le raconte finit en fait par vraiment intéressé, mais presque par le côté plus documentaire, je dirais, que par la qualité graphique propre du livre.
Lucie Servin, vous êtes d'accord sur le graphisme déjà pour commencer ?
Alors pour le graphisme, déjà moi je suis, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à lire ce livre. Je l'ai lu comme une avec beaucoup de légèreté, c'est pas ce qu'on attend sur Alison Bechdel, et sur ça je trouve qu'elle a fait quand même un pas de côté assez important, et au niveau du... Je l'ai lu vraiment comme une série, hein. Il y a 12 chapitres, c'est 12 épisodes, il y a ces jeux de mise en abîme, donc il y a le livre qu'elle est en train d'écrire dans la BD, c'est pas lessivé, mais c'est somme, pareil, avec un dollar, où on pense qu'elle va en fait analyser son rapport à l'argent, et il est beaucoup question d'argent, puisque c'est ces contradictions qui sont mises en scène, la contradiction de tous les engagements, de toute l'éthique par rapport à sa manière de vivre. Au niveau du dessin, j'y reviens, il y a une manière de... Elle veut écrire une télé-réalité aussi, une espèce de télé-réalité qui permettrait de combattre le...
Qui serait vertueuse.
Voilà, qui combattrait le capitalisme, le consumérisme pour montrer les joies de la vie éthique. Et en fait, cette télé-réalité, elle est dans la bande dessinée, à travers le dessin, à travers les chats. C'est-à-dire qu'il y a une représentation des chats dans cette BD, c'est les plus inconséquents des inconséquents. C'est-à-dire que elle fait aussi il y a aussi un élevage de chèvres naines. Enfin, c'est pas un élevage,
du
c'est
Pérou.
Un refuge. C'est un refuge de chèvres naines. Et alors les animaux, mais alors les chats, à un moment donné, il y a une case qui montre son budget. Et si vous regardez, les chats prennent 450 $, alors que pour la nourriture des chèvres, c'est 100 $. Et ces chats, ils sont sur toutes les cases, il y a l'arbre à chat quand elle travaille, etc. Et c'est une référence directe aux lolcats, à ce qui attire sur les réseaux sociaux. Donc je trouve qu'au niveau du dessin, c'est un petit peu sévère parce qu'il y a vraiment quand même une mise en scène du quotidien, de la routine qui se lit dans la BD.
Alors après, vous avez parlé de l'argent, et évidemment l'argent c'est très important puisque elle met en place, elle se confronte à ses contradictions, c'est-à-dire qu'elle est dépendante à Amazon, elle s'est éditée chez des républicains, pire que ça, des conservateurs terribles.
Bah, c'est comme si, oui, c'est comme si Frédéric Lordon se faisait éditer par Bolloré, quoi. Voilà. Non, mais oui, mais ça, c'est précisément, c'est le côté très quotidien, moi, que je trouve assez passionnant. Quand on calcule ce budget, qu'on se dit, bon, voilà, j'ai donné 10% de mes revenus à des œuvres caritatives, alors lesquelles choisir, puis on se rend compte que finalement, quand on arrive à donner 4%, c'est pas mal, parce qu'il y a quand même beaucoup de dépenses. C'est le côté documentaire dont je parlais tout à l'heure. Après, ce qui est assez habile, c'est qu'elle est censée effectivement adapter le Capital de Marx, et c'est ça qui donne les têtes de chapitre. Et là encore, graphiquement, c'est très bizarre. Je ne comprends pas pourquoi on nous montre des cases agrandies comme ça, où on voit les pixels. Ça, c'est il y a des vrais problèmes de maquettage dans ce bouquin. Même la couverture est quand même assez assez malheureuse dans le graphisme, vraiment, hein, dans le choix des polices, etc. Mais ce qui est très habile, c'est qu'elle met en scène son impuissance à faire ce qu'elle voudrait faire, quoi. Voilà. Donc c'est y compris dans ses engagements politiques, enfin vraiment quand on se confronte au concret, et dans ce projet de livre qui a réellement été vendu, hein, au départ à son éditeur américain, et puis qu'elle se rend compte très vite que lire le Capital de Marx, c'est quand même très très chiant.
Elle va sur Google,
et en plus on n'y comprend rien, elle essaie de trouver des versions bande dessinée du Capital pour mieux le comprendre. Alors elle garde juste des exergues, des titres de chapitres de Marx pour scander les différents épisodes de cette série, et au bout du compte elle raconte qu'elle n'y arrive pas mais qu'elle va faire un autre livre. Et ça, c'est pas mal, le côté je cherche mon livre et je le trouve en le faisant, c'est plutôt... Mais encore une fois, c'est de l'écriture. C'est pas vraiment pour moi réellement de la bande dessinée, quoi.
On va s'arrêter là parce qu'on a un programme très chargé. Lessivé d'Alison Bechdel, apparu chez De Noël Graphique. On enchaîne avec le nouveau David B., Monsieur Chouette. Ce titre fait vraiment penser à un petit livre d'illustration gentillet pour enfants, mais en fait, c'est vraiment le contraire. Dans un noir et blanc dont il est passé maître, l'auteur de la série multiprimée, L'Ascension du Homal, nous emmène cette fois dans le royaume des morts. Une nuit, dans une rue de Paris, une jeune femme, effrayée par son ombre menaçante, accepte de suivre un certain Monsieur Chouette, qui a effectivement une tête de chouette, de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des défunts, du monde des défunts, et l'aventure fantastique commence. Je vais vous laisser nous expliquer ce qu'on voit, parce que je pense que c'est pas mon boulot. Lucie Servin.
Oui, alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'inquiétude, déjà. une histoire inquiète racontée par David B. Et on voit en fait cette jeune femme qui a peur de son ombre et qui explique comment cette ombre a été un petit chat et qu'elle est devenue un tigre menaçant et que en fait on rentre dans une épopée d'ombre et de lumière qui va lui permettre de traverser l'autre monde, ce monde des morts, pour vaincre ses peurs avec ce monsieur chouette qui a plutôt la tête d'un hibou.
Oui, c'est vrai.
Et qui est le psychopompe, un ouais. peu comme Hermès. Donc on est quand même comme toujours chez David B, avec différents niveaux de lecture, avec des allusions. Rien que dans la première page, on a quand même deux allusions. Monsieur Chouette, je crois que c'est un poème de René Daumal qui l'a inspiré. On a une allusion à Horacio Quiroga, un autre poète qui a beaucoup de rapports avec la mort. Et puis enfin, Aragon, rien que dans la première page
de Gare. Il se situe, quoi.
Voilà, donc c'est un univers ultra référencé qui va être une accumulation de plein de choses. Je pense que c'est un livre important, peut-être aussi important que l'Ascension du Haut Mal pour David B. Mm-hmm. Dans le sens où l'Ascension du Haut Mal, qui était ce rapport autobiographique où il raconte son enfance avec son frère, ici avec Monsieur Chouette, on a une espèce de synthèse de tout ce qui traverse l'œuvre de David B. depuis ses premiers livres, c'est-à-dire Le Cheval Blême, c'est-à-dire Les Carnets de Rêves, c'est-à-dire sa dimension onirique. Mm-hmm. Et son rapport aussi au noir et blanc. Parce que c'est vraiment une orgie graphique, ce livre.
Voilà.
C'est sublimissime. Je veux dire, on peut se perdre. Vous me demandiez, qu'est-ce qu'on voit?
À partir du moment où elle passe de l'autre côté, après, c'est... J'ai dit l'aventure commence parce que j'arrivais pas à le résumer.
L'aventure commence et je pense qu'à chaque fois qu'on le relit, on peut redécouvrir des choses. Et c'est pour ça que je pense que c'est, je dirais que c'est un manuel de philosophie pratique de la nuit ou du rêve. C'est le genre de livre qu'on garde sur ta table de chevet et qu'on réexplore parce que c'est très ludique. Ça parle de la mort et la mort, c'est ce qu'on voit pas. Et à un moment donné, Monsieur Chouette dit « la mort est dans le regard ». Donc en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est l'absurdité absolue, la mort, et donc c'est la porte ouverte à l'imaginaire. Et le noir et blanc, dont David B. est un virtuose, permet cette capacité d'explorer la binarité, de creuser les contrastes, de travailler sur ce regard qui va porter la lumière dans l'obscurité totale, en fait. Mmh. Donc je trouve que une manière de lire ce livre, c'est aussi une manière de jouer avec le noir et blanc et de jouer avec le désir que met la lumière dans l'obscurité, en fait.
Antoine Guillaume.
Oui, c'est un livre tout à fait majuscule, mais il faut faire attention quand on en parle, parce que là, on pourrait donner l'impression que c'est un livre assez assez hermétique, totalement ésotérique, psychanalytique,
tout ce qu'on veut.
Alors, il y a tout ça, mais en même temps, c'est un polar, c'est-à-dire c'est cette jeune femme va se retrouver dans un monde où elle est pourchassée en permanence par cette figure tout à fait à la fois terrifiante et burlesque, qui est ce Cerbère, qui est en fait un être réparti sur trois chiens, qui vont changer sans cesse et qui vont la pourchasser, parce que les vivants n'ont pas leur place dans le monde des morts, mais la pourchasser pour la dévorer. Donc il y a quand même un enjeu assez assez inquiétant, et elle va être dans une fuite perpétuelle, se planquant, se déguisant, fomentant aussi des casses. Enfin, il y a un côté polar, vraiment, dedans, mais polar un peu comme on l'écrivait en France dans les années 30, enfin quelque chose de très étrange. Et en même temps, c'est vrai que c'est graphiquement, c'est tout à fait époustouflant, parce que quand vous demandiez qu'est-ce qu'on y voit, on y voit de l'accumulation.
Voilà.
En fait. Voilà. C'est une esthétique de l'accumulation permanente, parce que dans cet outre-monde, dans cet enfer, c'est en fait une espèce de décharge complète de tout ce qui meurt dans le monde des vivants. Donc quand un immeuble est détruit, il s'y retrouve. Quand vous jetez un papier, le journal de la veille, il s'y retrouve également. Donc c'est un fatras en permanence que dessine David B, mais avec une précision hallucinante. Il y a un sens du détail incroyable. Il y a tous les morts du monde qui sont là, qui sont tous représentés comme des sortes de yokai, des fantômes japonais mixés avec de l'art précolombien, voilà, avec les masques africains. Alors, il y a toutes les expressions artistiques du monde qui se retrouvent aussi dedans, d'une variation constante. C'est-à-dire que chaque case réinvente tout un bestiaire hallucinant. Et pourtant, c'est d'une lisibilité totale. Mmh. Ça, c'est le grand mystère et le génie de David B, c'est que on n'est jamais perdu dans ce qu'il raconte, y compris dans les pages ou double pages entières où plusieurs personnages sont les mêmes, en fait, à l'intérieur, se déplacent. On n'est jamais perdu. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et puis, il y a, et pourtant, comme vous le disiez, c'est un vieux routard de la bande dessinée, il y a quand même de la réinvention encore chez David B, notamment dans l'expression des matières. Ça, c'est très nouveau chez lui, où il y avait plutôt des noirs et blancs très tranchés. Là, il s'est essayé à la hachure et aux effets de matière qui donnent des effets absolument spectaculaires. Et puis, il y a toujours ce que j'aime beaucoup chez David B. Il faut vraiment regarder de près pour voir pourquoi ça vit autant. Alors là, c'est tout le contraire d'Alison Bechdel. Les personnages, même s'ils se transforment sans cesse, même s'ils ont des anatomies improbables, sont toujours vivants, sont toujours en mouvement, parce qu'il a cette espèce de trait vibratile. C'est toujours un peu tremblé, le trait de David B. Je ne sais pas du tout comment il fait ça, s'il le maîtrise ou pas, si c'est sa propre angoisse qui passe par là, ou si son excitation quand il dessine, ou je ne sais quoi. C'est toujours très finement ondulé, et ça donne une vie extraordinaire à ces personnages.
Mais si ça va ?
Oui, alors sur le graphisme, effectivement, il y a un hommage aussi à Édouard Goret, hein, je pense, dans le côté surréaliste. En fait, c'est ce qui fait, il y a ce côté récit de genre, même le braquage, enfin, on est dans une course-poursuite haletante. Mais il y a également tout ce qui est l'humour et une forme aussi de d'absurdité qui va vers le... Je pense par exemple à... Il y a un passage qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand il y a ces morts qui rejouent la violence, donc qui rejouent la guerre, qui rejouent les barricades, etc. Et il y a Monsieur Chouette qui dit, enfin, ou je ne sais plus si c'est Marie, donc le personnage principal, qui dit, mais qu'est-ce que c'est con la mort. Parce que donc il y a aussi cette dimension là très très ludique. On parlait de la décharge, qui est, en fait, c'est une espèce de décharge. C'est aussi une critique de l'obsolescence, et les objets et les êtres sont au même niveau. Il y a ces planches inventaire d'objets cassés, qui sont aussi, où il y a une vraie jouissance, en fait, de l'imaginaire à jouer avec la mort. Il y a quelque chose de trompe la mort dans ce récit. Vous parliez de vie, et c'est exactement ce qui ressort de ce livre. C'est-à-dire que c'est regarder la mort en face, c'est jouir, en fait, des possibilités de l'angoisse. Et c'est ce qui revient au début, c'est-à-dire que la question, il y a quand même aussi un espèce de chapitrage avec ces lettres qui sont installées dans les cases, qui forment les chapitres. Alors on a l'inquiétude. L'accumulation, qui est aussi un chapitre en lui-même, qui montre, en fait, cette jouissance de pouvoir tout mettre dans la mort. Et il y a la solitude qui crée des rebonds. C'est-à-dire que c'est vraiment... ça peut être pris comme un récit de genre, mais ça peut aussi être se retourner vers quelque chose de beaucoup plus métaphysique, parce qu'en fait, c'est Dante. Enfin, il y a aussi du Dante là-dedans. Il y a aussi la Divine Comédie. Il y a quelque chose d'extrêmement jouissif. Et je pense que si on va pas jusqu'au terrain métaphysique et philosophique, c'est que c'est des petits problèmes qui sont posés comme ça, comme des méditations, et qui pourraient pas être résolus dans une interprétation univoque, là, en 10 minutes.
Oui, non, mais il y a même du Sainte-Thérèse d'Avila dedans, parce que c'est inspiré, entre autres, par cette vision qu'avait eue Sainte-Thérèse d'Avila de l'enfer. Et l'enfer, c'est l'endroit où on refait sans cesse ce qu'on avait fait quand on était vivant, pris dans une espèce de boucle. Alors, effectivement, il y a des personnages de chauffeurs de taxi qui ont eu des accidents et qui rejouent sans cesse l'accident. Donc, il y a un côté presque hôpital psychiatrique, c'est-à-dire qu'on est pris dans la folie de rejouer, essayer de rejouer ce qu'on a vécu en faisant semblant en permanence. Donc, quand elle va dans un bar très bondé où les gens ont l'air très joyeux, ils ont l'air de s'amuser. C'est non, ils font semblant de s'amuser. Ils font semblant de manger. Ils font semblant sans cesse. Et ça donne une vision assez effrayante de ce qui nous attend après la mort.
C'était donc Monsieur Chouette, bien sûr, de David B. Évidemment, c'est à l'association.
12h-13h30, Les midis de culture. Marie Laborie.
Troisième livre de cette sélection, une première bande dessinée de l'autrice et illustratrice Bénédicte Müller, La tête sur mes épaules, parue aux éditions Atrabile. Martha vit dans une maison avec des enfants et des adultes. Tout cela forme une sorte de joyeuse tribu foutraque, on va dire. Des adultes, on n'en voit pas grand-chose puisqu'ils sont immenses et ils ont une énorme tête. Une nuit, pourtant, une de ces grosses têtes, qui était jusqu'ici plutôt sympa avec les enfants, ce qui n'était pas le cas des autres, passe la nuit dans le lit de Martha et la vie de cette petite fille va basculer. Antoine Guillot.
Oui, alors il faudrait presque pas le dire ce que vous avez dit, parce que l'expérience qu'on a de ce livre est à la fois déroutante et saisissante et terrifiante, mais sans qu'on s'y attende. Moi, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait en lisant ce livre. Je suis tombé dessus en me disant, tiens, bon, c'est un graphisme un peu convenu, ça ressemble à du Catherine Meurice, grande influence des jeunes autrices, cette jeune autrice qui sort de la haute école des arts du Rhin à Strasbourg, qui forme vraiment des gens passionnants. Et on commence à le lire en se disant, bon, voilà, ces histoires de gens dont la tête est amovible, qu'ils utilisent pour jouer au bowling ou à la pétanque, c'est rigolo, c'est bizarre. Il y a beaucoup, là encore, de textes qui jouent avec les images, mais pour le coup, le texte est vraiment mis en scène lui-même, et ça, c'est assez époustouflant. Et on a ce sentiment de lire un livre jeunesse qui serait peut-être destiné aux adultes, mais peut-être pas. Donc j'étais assez séduit au début, mais en me demandant un peu où est-ce que ça allait aller. Et puis tout d'un coup, effectivement, il se passe quelque chose. Et informés que nous sommes par toute une littérature, par le fait qu'on est beaucoup plus conscient aujourd'hui des questions d'emprise, d'abus sur les enfants, on réalise ce qu'on est en train de lire. Et là, tout d'un coup, de même que dans le livre, un creux se forme dans le corps de cet enfant, la même boule de vide se crée chez le lecteur. Quoi. Et ça, tout d'un coup, on est pris par un truc et on se dit, mais attends, il faudrait peut-être que je relise là, parce qu'il y a des choses que j'avais pas complètement perçues sur cette symbolique de cette tête énorme et assez monstrueuse, en même temps assez doucereuse, puis violente. Et là, on est saisi par quelque chose de tout à fait bouleversant. Et ce n'est que le début, c'est-à-dire qu'après, il y a tout le poids, et le titre, c'est « La tête sur mes épaules », c'est vraiment, ça dit le poids que peut avoir ce traumatisme, cette expérience atroce dans la vie d'un enfant, jusqu'à sa vie adulte. Et le tout représenté, là aussi, il y a des liens avec le livre de David Bay sur la question de l'accumulation, sur la question de ce qui se cache dans les recoins, des histoires qu'on ne veut pas dire. On ne sait jamais trop qui sont ces gens, quelles sont les relations à l'intérieur de la famille, sauf qu'on ressent, mais graphiquement, et là c'est très très fort, voilà une autrice de bande dessinée, voilà une BDAste qui utilise toutes les ressources de son art, elle est très jeune, je pense qu'elle ira très loin, pour exprimer très profondément ce que c'est qu'un malaise, une culpabilité, l'impression que tout est de sa faute, que personne ne comprend, puis tout d'un coup on sort quelque chose. C'est un livre qui se termine par un cœur qui fait du bruit, mais qui en fait en train de pleurer, et quelqu'un qui dit dehors, tant mieux si j'ai réveillé tout le monde. Mais effectivement, c'est un livre qui réveille.
Lucie Servin. Oui, alors effectivement, on a envie de ne pas déflorer en fait la surprise qui se crée, puisque on part dans des jeux d'enfants, on est à hauteur d'enfant, on est en train de jouer sur cette métaphore graphique qui est la tête, perdre la tête, jouer avec sa tête, mais qui peut aussi prendre un sens beaucoup plus tragique, qui est perdre la tête, la folie, mais jusqu'à décapiter, tuer en fait avec toute ce système-là. Il y a du Catherine Meurice, il y a aussi du Marion Fayolle là-dedans, c'est-à-dire faire jouer, en fait, à travers la métaphore du corps, réinventer un langage graphique. Et moi, ça me touche particulièrement, parce que je pense que, justement, dans ces histoires de traumatisme, la bande dessinée peut dire des choses qu'on n'arrive pas à formuler avec les mots, ou bien, à force de les formuler avec les mots s'épuisent. Et la bande dessinée a cette capacité à réinvestir par le corps et la tête. C'est ça qui est très beau, c'est que elle parle de tête. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est dans le langage, parce qu'elle emprunte. Une des premières pages, c'est une allusion à un conte maya qui s'appelle La femme sans tête. Et c'est une référence directe à cette écriture glyphique qui est inspirée des précolombiens. Les têtes sont en permanence de profil. Mm-hmm. Donc là, on est sur une écriture maya. Et ces grosses têtes imposantes qui représentent les adultes, ça m'a fait penser vraiment aux grosses têtes Olmec avec ces bouches immenses. Et donc la bouche permet de dessiner dans la tête ce qui se passe. Et ce rapport à l'autorité, ce rapport à ce que l'enfant en fait attend des adultes. Ensuite, par rapport à David B, on est sur un livre de blanc.
Voilà.
On est sur le livre de l'utilisation du vide, et il y a aussi donc il y a cette tête, mais il y a aussi cette question de rapport à l'espace, c'est-à-dire que l'univers, il y a presque pas de cases en fait. On est sur un univers ouvert parce qu'enfermé. L'enfant dans la famille, son monde s'arrête à l'espace de cette maison qui n'est donc pas découpée dans les cases et qui est complètement vide et à dessiner par rapport aux adultes qui remplissent et dessinent ce monde pour l'enfant. Quand elle dit « tant mieux si je vous ai réveillé », à la fin, elle sort de la maison. La maison devient un espace clos dans lequel elle arrive à s'extirper. Bref, donc moi j'ai trouvé que vraiment, sur ces questions de traumatisme d'enfance, d'un point de vue graphique, c'était magistral pour une première bande dessinée, encore une fois.
Moi j'aime beaucoup aussi la façon dont elle représente l'enfant, c'est-à-dire qu'au début, elle nous met dans une maison où on est en sécurité avec eux. C'est là que c'est terrible, en fait, aussi.
Ah ben ça commence par le jeu, y compris dans l'utilisation des couleurs, parce qu'il y a ce vide, ce blanc dont vous parlez, mais il y a une utilisation de ces couleurs pastels qui, au début, sont très rassurantes et qui sont de plus en plus angoissantes après, parce qu'on a l'impression d'être pris dans cette espèce de boue dont il est impossible de s'extirper. Non, c'est un livre qui est très très intelligent dans sa réflexion sur ce que peut exprimer un simple trait et une couleur aussi anodine qu'un rose ou un bleu ciel.
La tête sur mes épaules de Bénédicte Muller, apparu chez Atrabile. Antoine Guillot, Lucille Servin, merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Merci aussi à François Richer à la réalisation de cette émission, avec Anthony Thomasson à la technique. Et vous qui nous écoutez, et bien maintenant c'est à vous de vous faire une idée.